Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 4, chant 4, la quête, the quest. Comme perce un rayon de soleil par une forêt ombreuse, la Vierge d'or dans son char sculpté glissait légèrement parmi ces lieux de médiation, de méditation. Souvent, au crépuscule, lorsque rentrent les troupeaux, mêlant aux ombres leur poussière épaisse, quand le jour bruyant s'efface sous l'horizon, elle reposait arrivée dans un paisible bosquet d'ermites, enveloppée comme d'un manteau dans la patiente songerie de son esprit et sa prière intense, ou parfois près de la crinière fauve de la rivière d'un lion, parmi les arbres en adoration sur une rive de prière, une secrète sérénité sous le dôme d'un air consacré, l'appelait à arrêter ses rouatives. Dans la solennité d'un espace où l'esprit semblait se souvenir d'anciens silences et de grandes voix d'antan visiter le cœur, où la vaste liberté des voyants méditatifs avait laissé la longue empreinte de leur scène d'âme, conscient et éveillé à l'aurore blanche, comme à la nuit lunée, la fille de la flamme s'inclinait devant cette trace dormante et sous les paupières closes de cette tranquille splendeur buvait la parenté du calme éternel. Mais le matin venait frapper, lui rappelant sa quête. Se levant de sa natte, de sa couche agreste, poussée sur son chemin inachevé, elle poursuivait l'orbite fatidique de sa vie, telle une prière qui interroge les dieux silencieux, puis passe comme une étoile vers quelque au-delà brillant. Ainsi arriva-t-elle à de larges étendues désertes, où l'homme était un passant vers les lieux humains et seul luttait pour vivre dans les vastitudes de la nature, appelant à l'aide d'invisibles pouvoirs magnanimes, accablés par l'immensité de son monde et ignorant de sa propre infinitude. Sous les yeux de Savitri, la terre multipliait ses visages changeants et l'appelait d'une voix lointaine, sans nom. Les montagnes, dans leur solitude d'anachronète, les forêts, les mille voix de leur cantique, tout lui décelait les portes de la divinité masquée. Sur des plaines rêveuses, des sables languissants comme le lit d'agonie, d'un pâle soir ensorcelé sous les faux éclats d'un ciel livide, elle reposait impassible comme à la fin d'un âge où traversait une mute ardente, une meute ardente de roches entassées qui levait la tête comme à la chasse d'une tanière de ciel, où elle voyageait par d'étranges terres vides et des sommets désolés campés dans un ciel blafard, tels des sentinelles muettes sous une lune en dérive, ou elle errait par quelque énorme bois solitaire. Stridulant à jamais sous le cri des cigales, où elle suivait le long serpent d'une route luisante, à travers des champs et des prairies baignées d'une lumière crue, où elle débouchait sur une beauté vierge d'une étendue stérile, jamais touchée par une charrue ni pâturée par les troupeaux, et somnolée sur des sables nus et assoiffés parmi le cri sauvage des bêtes de la nuit. Mais toujours, sa quête fatidique restait inachevée. Toujours, elle n'avait pas trouvé le visage prédestiné, celui qu'elle cherchait parmi les files des hommes, un grandiose silence enveloppait les jours majestueux. Les mois avaient nourri la passion du soleil, et maintenant un souffle brûlant assaillait la glaive. Le tigre en rut rôdé parmi les terres prostrées. Tout était lapé par une langue cuisante. Les vents de printemps avaient manqué, le ciel résistait comme de bronze. Fin du chant 4, fin du livre 4. Alors maintenant, je vais vous lire le livre 5. Un extrait, évidemment, le livre de l'amour. Chant 1, le rendez-vous du destin. Mais maintenant, le lieu et l'heure du destin étaient proches. Sans le savoir, elle arrivait au but qui n'a pas de nom. Car toute masquée qu'elle soit d'un hasard aveugle et tortueux, la toute sagesse du destin est à l'œuvre. Nos actes traduisent une force omnisciente qui demeure dans l'irrésistible substance des choses, et rien n'arrive dans le jeu cosmique qu'en son temps et au lieu prévu. Elle est arrivée dans une étendue légère et douce comme l'air, qui semblait un sanctuaire de jeunesse et de joie. Une haute terre de libre et vert délice, où le printemps et l'été jouaient ensemble, se disputant dans un aimable débat insoucieux. Embrassée dans une querelle de rire à qui régnerait. Là, l'espérance battait de grandes ailes soudaines, comme si une âme avait ouvert ses fenêtres par un pan de la terre. Et tout ce que se trouvait à l'intérieur, oubliant les joies habituelles et les rêves ordinaires, obéissant à l'appel du temps et au destin de l'esprit, sentait la venue d'un changement, était soulevé vers une beauté calme et pure, vivante enfin sous les yeux de l'éternité. Les crêtes montagneuses attroupées assaillaient le ciel, poussant leurs épaules rivales plus près des cieux, tels les chefs d'armée sur une frontière de fer. La terre, prosternée, dormaient sous leurs pieds de roc. Plus bas, les bois se blottissaient dans un rêve d'émeraude, et la lisière des fleuves scintillait dans un soleil diamanté. De pâles torrents couraient comme un fil de perles blanches. Un souffle errant soupirait parmi les feuilles heureuses, voluptueux et lourd de parfums frais. Des vagues de vent titubant hésitaient parmi les fleurs, les grêtes blanches droites et immobiles comme un ray de lumière. Les paons, les perroquets paraient de joyaux le sol, les arbres, le gémissement de la tendre tourterelle enrichissait l'air amoureux. Et les mallards sauvages aux ailes de feu glissaient sur les marais d'argent. La terre couchait seule avec son grand amant, les cieux, nus sous l'œil pourpre de son prince. Dans l'extase de sa joie voluptueuse, elle jetait au vent les notes de musique d'amour, éparpillait le dessin passionné de ses floraisons et le festival exultant de ses senteurs et de ses couleurs. C'était cris et hâte et bondissement, les pas furtifs de ces créatures en chasse, les verdeurs échevelées de sa crinière de centaure, le saphir et l'or de son ardeur et de sa flamme. Magicienne de ses félicités ravies, folâtre le cœur sensuel, insouciante et divine. La vie courait ou se cachait dans les espaces enchantés de la terre. Derrière tout planait le calme grandiose. La paix vierge était là. Elle abritait dans sa poitrine tranquillement la lutte des bêtes et des oiseaux. L'homme, l'artificier au front malin, n'était pas venu mettre la main sur les heureuses créature inconsciente. La pensée n'était pas là, ni le calculateur, ni son labeur aux yeux perçants. La vie n'avait pas encore appris sa discorde avec son but. La puissante mère reposait à l'aise, les bras ouverts. Tout suivait la ligne de son premier plan satisfait, mu par l'universelle volonté de joie. Les arbres fleurissaient dans leur verte félicité, et les enfants sauvages ne ramâchaient point la peine. Mais à l'horizon se dessinait une gigantesque étendue, sévère, et des abîmes inextricables, des contreforts inquisiteurs et implacables, et des pics comme une austérité nue de l'âme, cuirassés et lointains dans une désolation grandiose, comme la pensée masquée des infinitudes, guettant derrière le sourire ravi de la danse du Tout-Puissant. Une haute tête aux cheveux torsadés, telle la cime d'une forêt, envahissait les cieux, comme si un ascète à la gorge bleue scrutait, du haut de son antre de roc dans les montagnes, examinant le brève bonheur de nos jours, la vaste ampleur de son esprit reposée derrière lui, cachée. Alors, il y a un nota bene sur la gorge bleue qui représente Shiva dans la tradition indienne, le dieu destructeur à la fin d'un cycle. Il a la gorge bleue car il avale le poison du monde. Un immense murmure d'abandon assaillant l'air, un appel de détresse sans borne, comme d'une âme qui quitte le monde. Telle était la scène que la mère ambiguë avait choisie pour sa brève heure de félicité. Ici, dans cette solitude à l'écart du monde, commençait sa tâche dans les joies et la lutte du monde. Ici se découvrir à elle les fiançailles mystiques, les portes secrètes de la beauté et de la surprise, les ailes qui battent dans la maison d'or, le temple de la tendresse et la nef ardente. Étrangère sur les routes chagrinantes du temps, immortelle sous le joug de la mort et du destin, exécutante du sacrifice de la joie et de la douleur des sphères, en cette terre vierge, l'amour vint à la rencontre de Savitri. C'est donc quand approche la fin d'un cycle, notre cycle humain après la première beauté de la terre, qui est l'heure de félicité, que Savitri a choisi de rencontrer l'amour qui pourrait sauver ce cycle de mort et changer la vieille semence du cosmos. Alors, je me permets de vous lire, pour conclure, pas complètement, mais une partie. Le chant 2, livre 5, chant 2, Satyavan. Je vais vous lire la fin de ce chapitre. Cette image dorée offerte à ses bras contenait en son cœur la clé de tous ses buts. Une magie pour faire descendre la joie de l'immortel sur la terre, pour marier la vérité des cieux à notre pensée mortelle, pour soulever les cœurs de la terre près du soleil de l'éternel. Dans ces grands esprits incarnés ici, maintenant, l'amour faisait descendre le pouvoir de l'éternité pour faire de la vie sa base nouvelle, impérissable. Sa passion a fait jaillir une vague des abîmes insondables, et des hauteurs perdues et oubliées, il a saisi la terre sans perdre sa nature infinie. Sur la poitrine muette de ce globe amnésique, nous semblons nous rencontrer comme des êtres inconnus. Mais nos vies ne sont pas nouvelles venues, ni ne se joignent comme des étrangères, poussées l'une vers l'autre par une force sans cause, l'âme peut reconnaître l'âme qui lui répond. À travers la séparation du temps et sur les routes de la vie, le voyageur absorbé sous sa capuche se tourne et il retrouve un éclat familier dans un visage inconnu. Touché, Par le doigt pressant de cet amour soudain, il tressaille à nouveau dans une joie immortelle qui a revêtu un corps mortel pour ce délice. Il y a un pouvoir dedans qui sait plus loin que nos savoirs. Nous sommes plus grands que nos pensées, et parfois la terre dévoile cette vision ici. Vivre, aimer sont les signes de l'infini. L'amour est une gloire venue des sphères de l'éternité. Dégradé, défiguré, imité par des forces plus viles, qui vole son nom, sa forme et son extase. Il est toujours le Dieu qui peut tout changer. Un mystère se réveille dans notre substance inconsciente, une félicité née qui peut refaire notre vie. L'amour habite en nous comme une fleur close, attendant un rapide moment d'âme où il erre dans son sommeil enchanté parmi des pensées des créatures. Le Dieu enfant s'amuse et se cherche lui-même dans bien des cœurs et des pensées et des formes vivantes. Il s'attarde, il attend un signe qu'il connaît. Et quand vient le signe, il s'éveille aveuglement à une voix, un regard, un contact et à l'expression d'un visage. Mais son instrument, l'obscur mental corporel, a oublié maintenant ses perceptions divines. Et le Dieu enfant se saisit de quelques signes d'un charme extérieur pour se guider parmi la cohue des suggestions de la nature. Il lit des vérités célestes dans les semblances de la terre, désire des images qu'il prend pour l'amour de Dieu, devine une immortalité dans les formes et prend le corps pour une sculpture de l'âme. Tel un voyant mystique, l'adoration de l'amour regarde l'invisible à travers la vision et dans l'alphabet terrestre découvre un sens divin. Mais le mental pense seulement, moi enfin, celui-là que ma vie vacante a si longtemps attendu, voici le soudain souverain de mes jours. Le cœur cherche un cœur à tâtons, le corps réclame un corps qui réponde, tout cherche à imposer l'unité que tout est. Trop loin du divin, l'amour est en quête de sa vérité, et la vie est aveugle, et les instruments se leurrent, et des forces sont à l'œuvre pour avilir. Pourtant la vision peut venir, la joie arrivée, rare est la coupe qui peut tenir le vin de nectar de l'amour, rare aussi le vaisseau qui peut contenir la naissance de Dieu. Une âme préparée par un millier d'années et le creuset vivant d'une suprême descente. Ainsi, ces deux esprits se connaissaient-ils, bien qu'en des formes étrangères, bien qu'inconnus à leurs yeux, bien que leur vie et leur mental aient changé pour contenir une dimension nouvelle, ces corps résumaient la marche d'innombrables naissances, et pour l'esprit, l'esprit était le même. Émerveillés de cette joie si longtemps attendue, les amants se rencontraient sur leur chemin différent. Voyageurs à travers les plaines sans bornes du conduits par le destin, tirés ensemble de leur cheminement, parmi les solitudes cachées de leur passé humain, retrouvés dans l'enchantement subi d'un rêve de joie future et le présent inattendu de ses yeux, réveillés par la puissance révélatrice d'un regard et prise par la forme, la mémoire de l'esprit, retrouver ses sens, le voile de brume entre deux vies se déchirer, le cœur de Savitri s'est dévoilé, le sien a chaviré de la retrouver, attiré comme l'étoile par l'étoile dans les cieux. Ils s'étonnaient l'un de l'autre et se réjouirent, et leur affinité s'est renouée dans le silence d'un regard. Un moment a passé comme un rayon d'éternité. Une heure a commencé, matrice d'un temps nouveau. Satyavan. Fin du chant 2, Savitri. Livre 5, chant 2. Je remercie infiniment Sri Aurobindo pour cette épique fabuleuse qu'est Savitri. La traduction en français de Satprem. Aujourd'hui, l'anniversaire d'Auroville et de Mère, puisque Mère a créé Auroville avec Sri Aurobindo. Et Sri Aurobindo avec Mère. Ils ont créé ensemble cette ville qui est Auroville. Bon anniversaire, douce Mère, dans tous les cœurs d'Auroville, de l'Inde et du monde. Merci Sri Aurobindo. Merci Mère. Ganga Lakshmi. Thank you.